chez vous. Le sujet d'aujourd'hui, les enfants étrangers et l'école. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des enfants étrangers à l'école avec un zoom sur ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ne parlent pas le français ou le parlent très peu, ceux qu'on appelle dans le langage administratif les primo-arrivants ou les ENAF, enfants nouvellement arrivés en France. Pour vous donner une idée chiffrée, et c'est important, sur l'Académie d'Aix-Marseille par exemple, et pour l'année scolaire 2007-2008, on compte entre les cours élémentaires et le lycée 1640 élèves primo-arrivants, sur un total de 53 000 élèves scolarisés. On pourrait donc dire que 3% c'est dérisoire, que ce n'est pas très important. Mais quoi qu'on en pense, et peu importe les chiffres, nous ne pouvons pas nous détourner du sort et de l'avenir de ces enfants. Nous allons donc aujourd'hui nous interroger sur la manière dont sont accueillis ces enfants dans notre système scolaire, sur l'incidence d'une arrivée tardive en France et sur le risque ou les avantages associés à ce statut d'élève primo-arrivant. Il est quand même important, je pense, de préciser que les études menées jusqu'à aujourd'hui démontrent que l'entrée en France en cours, au cours de l'enfance, plus précisément avant l'adolescence, c'est important, a dans un premier temps une incidence plutôt négative sur le déroulement de la scolarité de ces enfants. Elle l'entraîne ou peut entraîner très souvent des redoublements, des scolarités écourtées et ou plus d'orientation dans ce qu'on appelle les filières professionnelles. Mais au terme de leur cursus, en fin de parcours, on constate très souvent que ces enfants se retrouvent dans une situation très proche, voire dans la même situation que celle des élèves français de la même catégorie sociale. Nos invités aujourd'hui sont Claire Pouchol, qui représente le CASNAV, Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage, Amel Madouni, professeur de FLE, français langue étrangère au Collège Versailles, à Marseille, et Raliba Bounzoul, qui est professeur de français et qui est militante du réseau Éducation sans frontières. Pour commencer, je pense que nous allons écouter un extrait de l'entretien réalisé par Vincent Delpech avec Chantal Viroulot, responsable de l'association Zanzibar, lors du vernissage de l'exposition Métamorphose. Alors cette exposition, c'est une exposition d'œuvres plastiques qui a été réalisée par des enfants primo-arrivants du Collège Versailles dans le quartier de la Belle de Mai. Vous pouvez d'ailleurs visiter cette exposition jusqu'au 16 novembre à Espace Accueil aux étrangers, au 22 rue Mathieu Stilati, dans le 3e arrondissement de Marseille. Écoutons donc cet extrait.
Partager la façon dont ils sont venus, on ne peut pas en parler. Je dirais que ça reste tabou et j'oserais jamais aborder ce moyen de transport qu'ils ont eu les uns les autres. Ensuite, la raison pour laquelle ils viennent, c'est comme tous les primo-arrivants depuis que le monde existe, c'est se déplacer d'un univers précaire et pauvre vers un pays plus riche dans lequel l'espoir est permis et la réussite programmée. Donc tous ces enfants, ils ont, on va dire, l'envie de réussir. Et ceux de l'an dernier l'ont très bien prouvé en étant, je pense, à deux fillettes cambodgiennes, deux jeunes filles cambodgiennes qui sont arrivées sans parler le français et qui, à ce jour, sont devenues têtes de classe dans des troisièmes standards. Donc ce sont des enfants qui ne sont pas forcément pauvres dans leur pays, puisqu'ils ont réussi la somme nécessaire à leur installation et qui ont pu payer leur voyage pour la France. Maintenant, la difficulté, c'est qu'ils sont amalgamés à un public dangereux, voyou, on dira délinquant, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ils arrivent, je dirais que le primo-arrivant est arrivé aux États-Unis en 1910, comme il arrive aujourd'hui introduit en 2008 en Europe avec l'espoir d'une vie meilleure et des capacités intellectuelles ou éducatives bien ancrées en lui pour mieux réussir et pour avancer.
Quand tu parles de ces deux jeunes filles qui ont pris la tête de classe dans une troisième finalement classique, le rapport avec les autres élèves qui ne sont pas primo-arrivants, on va dire des élèves classiques, comment il se passe ?
Ça, je ne sais pas, parce que je ne peux pas les questionner. Surtout, ce qui surprend les enseignants, c'est justement cette facilité qu'ont les enfants qui sont nés ici et qui pensent que, ma foi, ils n'ont pas besoin de travailler, puisque rien que d'assister à l'école leur suffirait à réussir. Ce que je sais pour leur avoir demandé et pour l'avoir entendu auprès des enseignants, ce sont des élèves pour lesquels vont se poser le problème des études supérieures, parce qu'elles n'ont personne ici en France qui puisse leur montrer la route vers ces études. Et la dernière fois que j'ai discuté avec elles, c'était de ça. Puisque leur ambition, en étant très bonne, c'est d'aller vers un lycée professionnel pour préparer un CAP, alors qu'elles ont les capacités d'entrer en seconde.
Chantal Viroulot vient de nous parler de choses qui me paraissent importantes, d'envie de réussir et d'espoir d'une vie meilleure. Alors, il me semble que l'école, l'éducation, est un passage obligé pour cela. Je m'adresse à vous, Claire Pouchol, parce que vous êtes bien placée pour nous éclairer sur la manière dont s'organise l'intégration de ces enfants dans le système scolaire. Alors, avant cela, je rappelle que vous représentez le CASNAV d'Aix-Marseille. Alors, le CASNAV, pour ceux qui ne connaissent pas, est un service d'éducation nationale qui, dans chaque rectorat, est chargé de l'accompagnement et de la scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France et des enfants du voyage. Alors, Chantal, pouvez-vous nous dire comment se passe l'organisation de cette intégration dans le système scolaire ?
Bonjour. Effectivement, l'éducation nationale a prévu la mise en place de tout un type de dispositif pour l'accueil de ses élèves entre l'âge de 6 ans et jusqu'à 20 ans, au moins, si c'est possible. Tant que la scolarité est obligatoire, ils sont inscrits, si l'éducation nationale l'offre près de leur domicile, dans des dispositifs, que ce soit à l'école ou au collège, qui leur offre des cours, notamment de français, pour préparer effectivement l'apprentissage dans toutes les disciplines, l'accès à la langue qui permettra l'accès aux apprentissages. Mais il y a aussi parfois des cours spécifiques dans certaines disciplines, comme les mathématiques par exemple, parce que c'est vrai qu'il s'agit bien de leur permettre d'acquérir un lexique très spécifique et pas seulement un français de communication. Voilà. Au-delà de 16 ans, des dispositifs existent aussi qui permettent de scolariser ceux qui le peuvent.
Et comment se passe en fait l'évaluation de ces enfants ? C'est-à-dire que comment on les intègre dans une classe ou une autre
Alors, quand ils arrivent effectivement, il y a des tests d'évaluation et un test de français, parce que certains sont déjà un peu francophones, voire complètement francophones. Et puis des tests en langue d'origine, dans leur langue de scolarisation antérieure, en mathématiques et en lecture, qui nous permettent d'établir un niveau scolaire global. On extrapole un petit peu à partir du niveau en mathématiques pour savoir dans quelle classe l'élève sera le mieux à même de réussir à partir de ses savoirs déjà acquis. Et puis en lecture aussi, puisque un élève qui est déjà lecteur dans sa langue va très vite acquérir la lecture dans une nouvelle langue, dans cette langue qui va devenir sa langue seconde et sa langue de scolarisation. Et c'est à partir de ces tests qu'on peut savoir si l'élève a besoin d'une prise en charge lourde dans le dispositif, avec beaucoup, beaucoup d'heures de français, ou moins, parce qu'il est déjà un peu francophone, et puis qu'on va pouvoir choisir sa classe d'inscription au plus près de ses savoirs.
Voilà. Mais cette évaluation se fait par qui, en fait ? Par les enseignants eux-mêmes ?
Alors, les enseignants des dispositifs, oui, testent eux-mêmes. Si l'élève vit dans un secteur où il n'y a pas de dispositif, c'est les formateurs du CASNAV qui se déplacent pour évaluer et puis pour aider les enseignants qui vont le prendre en charge sans dispositif spécifique On alloue parfois des heures supplémentaires dans les établissements, dans les collèges ou les lycées, pour pouvoir soutenir davantage l'élève.
En fait, l'élève, ces élèves-là sont, n'ont pas un cours spécifique pour eux ou n'ont pas, ils s'adaptent en fait au programme ou du collège, ou est-ce qu'il y a des classes particulières pour eux?
Ce ne sont pas des classes.
Enfin, ils s'intègrent dans des classes ou il y a des classes spécifiques pour eux?
Ce sont des dispositifs, c'est-à-dire que ce sont des structures ouvertes. Ils appartiennent d'abord à une classe ordinaire, puisque l'objectif c'est quand même bien l'intégration scolaire et sociale aussi, hein. Donc ils appartiennent à une classe comme n'importe quel autre élève. Mais un aménagement d'emploi du temps leur permet de suivre des cours spécifiques de français ou d'autres disciplines. Voilà.
D'accord. Donc, ils se soumettent à l'emploi du temps de la classe donnée.
Oui.
Et ensuite, ils peuvent avoir des moments pour eux spécifiques, soit pour des cours de langue, soit pour des renforcements dans telle ou telle matière.
Voilà.
C'est ça.
Oui.
Et sur le plan de la ville, disons, comment sont dispatchés ces... Enfin, le mot n'est pas très beau, mais enfin, est-ce que on les met selon leur lieu de, selon leur domicile, ou est-ce qu'on on s'arrange un petit peu pour que ces enfants aillent un peu partout, pour, disons, plus de mixité sociale? Je rêve peut-être.
Alors, la mixité sociale, elle existe, c'est-à-dire que tous les dispositifs ne sont pas dans les quartiers difficiles. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait un réel maillage du territoire, hein, sur, notamment sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse pour notre académie, puisqu'il y a moins de primo-arrivants dans les départements alpins. Ils sont inscrits a priori dans leur secteur, hein, comme tout élève, puisque au-delà de la première année de prise en charge, il faut bien qu'ils soient aussi avec les copains du quartier, et l'intégration sociale, elle passe par là aussi. Mais tous les dispositifs ne sont pas dans les quartiers dits difficiles.
D'accord, même si en fait, quand on regarde bien, on a cette impression-là souvent,
oui.
Hélas. D'accord. En fait, vous faites une évaluation en amont pour dispatcher et mettre les élèves au bon endroit, à la bonne classe. Mais est-ce que vous avez une idée, en fin de parcours, sur ce qu'il advient de ces élèves? Je disais tout à l'heure que les études démontrent que c'est pas si négatif que ça, mais est-ce que vous suivez ça? Vous avez des chiffres, vous avez des études spécifiques faites, je veux dire, par l'éducation nationale?
Non, je ne dispose pas de chiffres sur qui soient précis là-dessus. Ce qu'on observe effectivement, c'est qu'un élève qui arrive en ayant eu une scolarité relativement stable avant dans son pays d'origine s'adapte rapidement et poursuit sa scolarité sans embûche. C'est vrai que le niveau scolaire en arrivant est important. C'est vrai qu'il est plus difficile aussi d'arriver à l'adolescence que quand on est petit. Quand on a 6-7 ans, on a un peu plus de temps devant soi pour faire ses preuves. Oui. Mais on n'a pas de chiffres précis et on ne peut pas dire que les élèves nouvellement arrivés en France réussissent moins bien que les autres, pas du tout.
Effectivement. En fait, on a bien compris que Cazenave, la complexité du dispositif essaie quand même de répondre à ses besoins au cas par cas. Ceci se fait sur tous les départements et sur toutes les régions de France, pareillement, quoi.
Oui, alors je crois qu'il y a des endroits où il n'y a pas de Cazenave, comme la Corse, par exemple, mais
d'accord.
Il y a quand même des gens qui sont formés, qui sont là pour accompagner notamment les enseignants, parce que aider les élèves, c'est aussi aider les enseignants qui les accueillent à bien les prendre en charge. Et donc, le Cazenave s'occupe aussi de former les enseignants et de les accompagner. Voilà.
Ah, il y a des enseignants qui sont formés spécialement pour ça.
Ceux qui sont sur poste sont effectivement conviés à des stages. Et il y a aussi des formations à l'intérieur des établissements, à la demande d'établissement.
D'accord, nous reviendrons peut-être à vous dans quelques instants. Nous allons peut-être écouter maintenant la suite de l'entretien avec Chantal Virulo.
Je suis plasticienne de profession depuis 18 ans. Donc j'expose mon travail qui, depuis 2003-2001, parle surtout de la précarité et de l'immigration. Ce sont exclusivement des œuvres textiles. Maintenant, je travaille pour l'association Vers Zanzibar depuis 6 ans. cette association met en place des ateliers de pratiques artistiques dans des milieux favorisés et défavorisés, donc aussi bien dans le 8e arrondissement à Marseille que ici dans le 3e près du métro Désiré Clary au collège Versailles, aussi au Beaumettes à la maison d'arrêt des hommes. Et puis sur quelques centres sociaux, en particulier avec le public féminin. Ici, sur le collège Versailles, il s'agit de classes de 6e consolidées, donc des enfants qui sont peut-être primo-arrivants, mais on va dire qu'ils ne sont plus considérés puisqu'ils sont en France depuis 2-3 ans, ou bien alors ils ont acquis suffisamment de bases dans leur pays d'origine pour intégrer une 6e un peu fragile, mais une 6e, on dira, standard, avec quelques aides pédagogiques supplémentaires. Et puis pour la classe d'ENAF, ENAF, c'est le nouveau terme pour désigner les enfants étrangers, c'est enfants nouvellement arrivés en France. Donc c'est une classe qu'on voit depuis 2 années diminuer. Pour cette année, je ne sais pas où on en est. Donc depuis 2 ans, c'est une action auprès de ces deux classes.
Comment ça se déroule, par exemple, avec les ENAF? Parce que je suppose qu'ils ne parlent pas très bien français en arrivant, voire pas du tout, souvent de langues différentes en plus.
Ça se déroule avec... j'amène une partie de mon travail artistique, je raconte pourquoi je le fais. Donc en le racontant, l'enseignante insiste souvent sur le savoir de s'ils ont compris ou pas compris. Elle étaye un peu plus davantage et puis ensuite je dirais que je suis fille d'analphabète et de femme étrangère, donc j'ai une façon... instinctive de, on va dire, oui, intuitive, instinctive d'expression, puisque ma mère connaissait très peu de mots, donc j'étais obligée de la renseigner sur le monde alentour avec une série générique de mots qui englobait d'autres idées, et donc c'est peut-être cet atout que j'ai dans mon travail aujourd'hui.
Et eux, comment ils le perçoivent, ça, la création plastique, quand tu leur parles de tes œuvres, par exemple, et de tout ça, je suppose que tu leur racontes aussi ce que tu es en train de nous raconter?
Comme j'ai une partie de mon travail d'artiste qui est autobiographique, évidemment, je raconte les débuts de ma mère et puis ensuite peut-être mes débuts à moi qui doivent ressembler aux leurs. Donc déjà, ça met en confiance. Et puis ensuite, je suis très attentive aux objets de famille qu'ils ont à la maison, aux objets de mémoire. Et puis peut-être que... qui savent qu'entre eux et moi, c'est une histoire d'échange de cœur et que je suis là pour les soutenir et pour les faire avancer, ni pour m'en servir, ni pour comment dire, les instrumentaliser dans une direction. Donc ceci fait qu'on arrive à tisser des choses assez solides.
Voilà, nous venons d'écouter un second extrait de l'entretien avec Chantal Viroulot. Et j'ai envie de m'adresser à vous, Amel Madouni, parce que vous connaissez bien les élèves dont vient de nous parler Chantal. Je pense que vous avez travaillé avec eux. Alors, vous pouvez peut-être nous dire comment se passe votre travail à vous, en tant que professeur de français langue étrangère, et peut-être au-delà de l'apprentissage de cette langue, de la langue, est-ce qu'on a vraiment besoin de compétences particulières avec ces élèves, ou est-ce que, au fond, ils sont comme tous les autres?
Alors, bonjour. Effectivement, alors, moi, je travaille sur le collège Versailles, depuis 3 ans, les élèves que je reçois sont testés immédiatement dès leur arrivée au collège. Et en fonction de ça, ils sont placés dans les classes, dans leur classe d'âge et parallèlement au groupe de francophonie auquel ils appartiennent. C'est-à-dire que chaque élève a un niveau de français lorsqu'il arrive en France. Soit il est non francophone, soit il est dans un niveau intermédiaire, soit il est déjà bien avancé. Alors, quand on a la chance d'avoir 3 niveaux sur l'établissement, c'est très bien, on peut les mettre par rapport à leur niveau de français. Ils sont testés, ils sont mis dans des classes, dans leur classe d'âge, et en fonction de ça, ils vont venir en français avec moi. Ils ne vont plus du tout dans le cours de français de la classe de rattachement, ils viennent seulement en français avec moi. On les retire également du cours d'histoire géo, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une des matières les plus difficiles pour eux, pour la simple raison que l'outil langue est primordial. Il y a pour l'élève une difficulté aussi au niveau de tout simplement avoir un manuel, comment utiliser le manuel, ce qu'il y a dans le manuel, des documents qu'il ne connaît pas. Donc on s'est bien rendu compte que l'histoire-géographie était une matière trop difficile pour eux. Donc on les enlève de ces deux matières-là en priorité et on favorise au maximum l'intégration de ces élèves sur des matières dites plus faciles, comme arts plastiques, musique et EPS. Voilà.
Donc, EPS ?
Éducation physique et sportive.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est l'organisation du DAI sur l'établissement. Les élèves viennent avec moi. En moyenne, je les vois 10 heures par semaine, selon les groupes. Donc je suis quand même leur personne, le prof de référence, puisque je suis la première personne à les recevoir. Bien souvent, ils vont très vite se confier à moi. S'ils ont un besoin, je suis là. S'ils ont besoin de demander quelque chose d'administratif, je suis là. S'il y a le lien à faire avec les autres enseignants, je peux le faire également. Donc ça, c'est pour tout ce qui est social, en fait.
D'accord. Hein.
Au niveau des contenus, ils ont un manuel de français. Ils ont du français comme n'importe quel élève, sauf que ça va couvrir des besoins, les premiers besoins de français, quoi, au niveau de la communication, mais aussi au niveau du rattachement, comme disait Madame Pouchol tout à l'heure, avec justement l'outil langue sur les autres matières aussi. Donc on essaye de faire le parallèle entre le français de communication et le français qui va servir aux autres matières, qui sera au service des mathématiques, des sciences, de l'histoire géo. Parce que bien souvent, pour cet élève-là, il va très très vite être capable de communiquer avec les autres, mais il lui manquera bien sûr le français pour comprendre les textes, pour comprendre l'école, pour comprendre la géographie, pour comprendre l'histoire.
Mais voilà. En fait, cet apprentissage se fait quand même assez rapidement. Les enfants s'imprègnent de la langue assez rapidement.
Alors, le français de communication, on va dire qu'il se fait très très rapidement.
D'accord.
Ensuite, donc je rejoins ce que disait Madame Pouchol tout à l'heure. Lorsque l'élève a été bien scolarisé, le passage d'une langue à l'autre va se faire très rapidement. Donc ça va être l'histoire de un an, peut-être plus court encore. Il y en a qui font seulement 3 mois en DAI.
Et donc après, ils rejoignent une classe normale.
Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus avec moi.
D'accord.
Alors pour eux,
mais ils continuent à avoir une aide ponctuelle.
Alors parfois, ils n'ont plus besoin d'aide. Hein. C'est arrivé bien souvent. Donc ça, il faut le souligner. Il y a des enfants qui réussissent très bien et très vite quand ils ont été bien scolarisés, qu'il n'y a pas eu de scolarisation chaotique dans le pays d'origine. Ou parfois, il y a des enfants qui n'ont jamais été scolarisés. Le travail est lourd et long.
D'accord. Je voulais vous poser une question plus précise. Il est évident que l'apprentissage de la langue est une condition première pour l'intégration de ces enfants à l'école ou dans la vie sociale. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment la seule ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui paraissent quand même aussi importantes en tout cas ? Quels sont en fait les problèmes auxquels ils sont affrontés quotidiennement et qui sont d'un autre ordre que...
Alors, voilà. Nous, on a vu... Alors, au collège Versailles, il y a quand même 90% d'enfants musulmans, comoriens et algériens. Eh bien, cela n'explique pas pour autant que les enfants soient plus intégrés, parce qu'ils sont eux-mêmes musulmans, algériens ou comoriens. Ces enfants-là, lorsqu'ils arrivent, bien souvent, ils sont montrés du doigt, on les a traités de clandestins, il a fallu qu'ils ramènent des papiers pour prouver qu'ils n'étaient pas clandestins, qu'ils avaient des papiers comme tout le monde.
Ah, c'est de cet ordre-là, mais c'est entre élèves, vous voulez dire ?
Entre élèves. Donc il y a quand même cette espèce de rejet de l'autre.
Donc, le problème se pose entre élèves. Mais les enfants ne disent pas nécessairement dans quelle situation ils se trouvent.
Non.
D'office, on les montre du doigt.
Tout à fait, parce qu'ils sont étrangers.
Si je peux rajouter quelque chose.
Oui, Claire.
Il y a quelques difficultés parfois quand l'enfant qui arrive ne sait pas pourquoi il est là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que le projet migratoire des parents soit expliqué à l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui peut perturber effectivement l'intégration de l'élève qui arrive, quand il ne sait pas pourquoi il est là. Donc on a parfois un travail à faire avec les parents, hein, pour leur permettre d'expliquer à leur enfant les raisons de leur présence en France.
Et le contact est facile avec les parents ?
Alors ça dépend, comme avec toute famille, qu'elle soit étrangère ou pas.
Mais les parents restent ouverts en fait à ce type de...
Ils sont très soucieux de la scolarité de leur enfant.
Merci. Nous allons peut-être faire une petite pause musicale avec Hector Zazou.
Thank you.
continuons notre émission. Bienvenue chez vous. Et nous rappelons que le sujet du jour, c'est les enfants étrangers et l'école. Alors, on va continuer notre débat. Et je m'adresse là à Raliba Bonzoul, qui est, vous êtes professeur de français.
Français.
Et vous êtes militante du réseau Éducation sans frontières. Alors, tout à l'heure, je voudrais juste dire que, en fait, au vu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la situation de ces enfants étrangers est souvent une situation précaire, hein, et difficile pour l'ensemble de ces enfants. Mais il semble qu'il y ait une situation un peu plus difficile, c'est celle des enfants dont les parents sont en situation irrégulière, et en situation irrégulière, donc, ce qu'on appelle communément les sans-papiers. Et Amel Madouni, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit que ces enfants, quand ils arrivent, ils sont tout de suite montrés du doigt, qu'ils aient des papiers ou pas, mais les enfants entre eux sont pas très...
tolérants.
Voilà, ne sont pas très tolérants. Et ils montrent des doigts, du doigt les enfants qui sont
qui viennent
supposés... qui viennent d'ailleurs. Et encore plus ceux qui sont supposés être des sans-papiers.
Parce qu'on associe, en fait, pour eux, ces enfants, les enfants du collège Versailles, comme les enfants de partout, le fait que ces enfants arrivent de l'étranger, avec cette médiatisation autour du problème des clandestins et des sans-papiers, ils associent, en fait, le fait d'être étranger au fait de ne pas avoir de papier.
Oui, voilà.
Donc, ils rentrent dans une espèce de rejet, en fait, de l'autre.
Oui. Et donc, en fait, je reviens vers Aliba pour vous demander de nous parler un peu plus de l'action menée par le réseau Éducation sans frontières et donc revenir à la situation particulière de ces enfants.
Bonjour. Oui, donc l'action menée par le réseau Éducation sans frontières, elle est justifiée légalement par le fait que beaucoup d'enfants dont les parents sont sans papier se retrouvent dans des situations très difficiles, dans lesquelles leurs familles sont mises en péril, etc. Donc les actions menées, elles sont très différentes, il y en a pas mal, c'est-à-dire que ça peut être des rassemblements dans l'établissement quand il y a un enfant qui est menacé d'expulsion, ou dont les parents sont menacés d'expulsion. Ça peut être de la mobilisation des enseignants, ça peut être encore... de l'aide de certains membres du RESF pour des actions juridiques ou pour de l'accompagnement, etc. Bon, il y a des côtés un peu plus festifs parfois, etc. Mais enfin, bon, les actions sont diverses selon le cas qui est propre à chaque enfant. Donc voilà, pour les actions qui sont menées par le RESF. Il y a aussi des parrainages, etc. Bon, tout ça...
Oui, on en parle beaucoup dans les médias, mais en fait, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente disons pas un chiffre, mais vous avez vraiment beaucoup d'enfants qui se trouvent dans les parents sont expulsés et qu'on vient chercher à l'école ou devant l'école?
Alors je pense que des cas où vraiment on vient chercher l'enfant devant l'école, etc., on n'en a pas tous les jours, bien entendu, mais les chiffres qui sont avancés pour les expulsions d'adultes de façon générale, ils sont en corrélation avec ceux des enfants qui vont avec. Mmh. Et qu'on ne nous dit pas forcément, puisque voilà, ça a quelque chose de complètement scandaleux et tout ça. Donc ils sont énormes, et de plus en plus nombreux, ces chiffres-là. Voilà. Donc, après c'est difficile de chiffrer, bien entendu,
oui, oui.
Mais voilà, ça dépend également des établissements. Dans un établissement comme Versailles, bien entendu, on est avec des enfants, ça arrive régulièrement qu'on entende parler d'enfants dont les parents n'ont pas de papier ou voilà, qui sont dans des situations irrégulières.
En fait, l'école est obligatoire et en fait, on ne demande pas les papiers à ces enfants ni à leurs parents. On les inscrit d'office à l'école, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais après, est-ce que c'est les enfants qui annoncent qui parlent de leur situation? Est-ce qu'ils le cachent? Comment ça se passe, en fait? Comment on finit par le savoir et comment le vivent, les enfants vivent cette situation?
Alors
peut-être,
ça, oui. Bon, ça c'est assez particulier selon chaque enfant. De façon générale, bien entendu, comme le soulevait donc Amel, professeur de FLE, il y a pas mal d'enfants qui en ont honte, qui n'osent pas en parler, dont les amis du collège ne sont pas au courant. Et dans ce cas-là, c'est là que le rôle des adultes est très important. Le rôle des profs, chacun de façon personnelle, puisque les enfants peuvent venir nous parler. Et c'est comme ça que ça se débloque, mais ça dépend de chaque enfant. Un enfant va peut-être venir naturellement voir son professeur, celui en quel il a le plus confiance. Et puis, ça peut aussi venir des profs qui se rendent compte que l'élève est arrivé il n'y a pas si longtemps, et qu'il a bientôt 18 ans, et qu'il est arrivé après ses 13 ans. Enfin, ça peut être des situations particulières comme celle-là, par exemple.
Oui, parce que ce serait peut-être bon de préciser qu'en fait, les enfants, bon, jusqu'à, j'imagine, l'âge de 16 ans, n'ont pas trop de problèmes. Mais en fait, quand ces enfants, jusqu'à 18 ans, on va dire, mais quand ils sont encore dans le système scolaire et qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, ils sont eux-mêmes expulsables, ils sont plus en... Alors, comment ça se passe? Qui veut répondre cette question?
Nous, on a eu un élève qui était justement dans ce cas-là. Je m'en suis rendu compte parce qu'il avait un comportement un petit peu douteux. Il était un petit peu fermé. Il avait quelque chose de stressé en lui. J'en ai parlé et on a fait, une petite enquête. Effectivement, c'était un enfant qui était jeune errant, qui était arrivé seul du Maroc. Et nous avons réussi à le maintenir, à lui trouver un internat, une formation, etc. Et je l'ai revu 2 années après. Il était heureux, il avait une formation professionnelle, tout s'était bien déroulé pour lui. Mais effectivement, là, c'était un peu le hasard, parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui avait vu, justement, qui avait une détresse quelque part. Il vivotait, il allait à droite, à gauche. Et je pense que ça tient un petit peu au hasard pour ces enfants-là, hein, s'ils sont maintenus ou pas.
Oui,
j'allais dire au hasard et aussi à la vigilance.
Oui.
Puisque, effectivement, on est dans des établissements dans lesquels on se doit d'être vigilant et dans lesquels on se rend compte par moment de certaines situations.
Voilà.
Comme ça, en regardant les dates de naissance, en regardant...
Le comportement
de l'enfant.
Fuyant, voilà. Stressé...
c'est clair, représentante du CASNAV, n'est-ce pas, qui va nous répondre.
Je voudrais dire à quel point le fait qu'un enfant soit scolarisé tout en sentant peser sur lui l'angoisse des parents qui sont en situation irrégulière, à quel point ça peut aussi perturber la scolarité, hein. Ils vivent dans une angoisse permanente. À cette angoisse s'ajoute l'injonction des parents de ne surtout pas parler de la situation, de surtout pas dévoiler la situation. Donc, ils ne peuvent pas se confier, effectivement. Donc, ils sont coincés entre ces deux murs-là. Hein. Le mur, il ne faut pas que j'en parle. Et l'autre mur, et en même temps, je suis angoissée. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je serai encore là? Est-ce que mes parents sont menacés? S'ils le sont, moi aussi. Et qu'est-ce que je vais devenir? C'est-à-dire une difficulté à se projeter dans l'avenir, qui est très grande. Et on sait bien que les études, c'est aussi se projeter dans l'avenir, quoi.
Ouais, donc l'effet est absolument néfaste, quoi. Enfin, je veux dire, ça ne peut mener... Ça complique, disons, la situation. Je voulais aussi revenir un petit peu en arrière, parce que Amel Madouni, donc professeur de français pour le français langue étrangère à Versailles, vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu affaire à un enfant, à ce qu'on appelle les mineurs isolés. Donc un enfant... en d'autres termes, des rues, ou un enfant qui n'a pas de parents derrière. Pour cela, comment ça se passe, en fait? Y a-t-il un dispositif spécifique? Comment il finit par arriver à l'école?
Je ne sais pas comment il a été inscrit. Il y a peut-être un adulte ici. On y avait parlé d'un adulte, peut-être, où il pouvait s'adresser à cet adulte, qui l'a inscrit au collège. Et comme on ne demande pas de papier, il a été inscrit, cet enfant. Oui. Donc il est arrivé, je vous dis, c'est une histoire un petit peu particulière, hein. C'est un peu du hasard du début jusqu'à la fin. Et donc il est arrivé au collège Versailles, il a été scolarisé comme n'importe quel élève qui vient d'arriver, il a été testé par moi-même, il a suivi les cours de français, et voilà quoi, tout s'est passé un petit peu au hasard...
Oui, il me semble qu'il existe des associations qui... Je pensais entre autres à l'association Jeunes Errants.
Tout à fait.
Qui fait un travail assez remarquable à ce niveau.
Au CASNAV, puisque nous recevons ceux qui ont plus de 16 ans et qui donc pour qui la scolarisation n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'effectivement, on les teste avant qu'ils soient inscrits quelque part pour savoir où les placer. Par rapport à leur niveau, etc., pas les mettre en échec là où ils ne seraient pas à leur place. Et effectivement, parmi eux, un certain nombre sont de jeunes errants, de jeunes mineurs isolés, qui sont aussi soit pris en charge par une association, soit il y a eu une mesure de justice, donc ils sont placés en foyer, et ils sont très bien encadrés et très bien suivis. Et là encore, tout dépend finalement de leur scolarité antérieure, de leur parcours. Si ça fait très longtemps qu'ils sont à la rue, y compris dans leur pays, c'est très difficile.
Oui. Juste une petite question. On arrive, je pense, au terme de notre débat. Enfin, on s'en approche. Comment ça se passe pour justement ce que je disais tout à l'heure, les enfants qui arrivent à 18 ans? Et est-ce que vous avez eu déjà affaire à...
Non.
Ou alors à ceux qui sont à 16 ans, mais qui sont dans des qui ont affaire plutôt à des contrats d'apprentissage, qui sont pas tout à fait dans le système scolaire classique, quoi.
Bon, c'est encore Cazenave qui répond, oui. Puisqu'effectivement, après 16 ans... Alors, quand ils ont 16 ans et qu'ils ont un niveau qui leur permettrait de poursuivre des études, notamment des études générales, on les inscrit en troisième de collège pour leur permettre de raccrocher et de bénéficier des dispositifs de soutien en français, etc. Mais l'orientation peut être aussi un lycée général. Il y a des dispositifs aussi en lycée général et puis un lycée professionnel. C'est tout à fait possible aussi. Bon, parfois, le jeune qui arrive n'a vraiment un niveau scolaire tellement faible qu'on ne peut pas envisager de solution scolaire. Et dans ce cas-là, il y a aussi des associations qui prennent le relais avec des stages de remise à niveau en français, en maths. Et puis, en attendant que la situation se régularise pour ceux qui ne sont pas en situation régulière. Lorsqu'ils sont en situation régulière, les missions locales peuvent prendre le relais.
Nous allons poursuivre l'écoute de l'entretien avec Chantal Viroulot.
Le fait d'être sur la même activité, sur cette activité plastique, ça permet un peu, on dira, c'est comme une nuit avec des rêves, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas réel et qui n'existe pas dans le jour, on peut l'inventer la nuit et se satisfaire de cette façon-là. Et la création plastique, elle existe et elle est là pour matérialiser des choses qu'on ne peut pas forcément matérialiser avec l'argent, mais disons qu'on peut tout de même faire exister. Et à travers le travail de la métamorphose, c'était la fenêtre vierge qui était offerte aux enfants. C'était l'espace plastique dans lequel ils pouvaient créer. Et c'était la création de cette fenêtre. Invente-moi ta fenêtre. Montre-moi ce que tu vois au travers de cette fenêtre. C'était le thème de cette année avec, de façon tramée, l'idée de la métamorphose et le travail de la métamorphose du passage de l'espace intime familial à l'espace scolaire et puis pour le futur à l'espace social ou à l'espace public comme on l'est ce soir au cours de ce vernissage.
Comment ça réagit après, en règle générale?
C'est la deuxième fois que j'organise un vernissage.
Pour la première?
Pour la première, c'était moi qui étais très anxieuse et qui avait très peur de ce que ça allait donner ou de comment ça allait être perçu. Deuxième fois, ça se passe très bien. La première fois aussi, ça s'est bien passé.
Ça change quelque chose pour eux?
Je pense, parce que pour moi, je me souviens de mes premières fois, les premières fois où je suis devenue artiste, où j'ai exposé, où j'ai été dans un vernissage. Je sais que ça change énormément. On change de place ce jour-là. On est un peu sur le palier de l'escalier et on regarde en bas ce qui se passe. C'est un peu plus agréable que d'être en sous-sol. Je leur demande jamais ni de se livrer et je donne surtout pas de consignes parce que si je donnais des consignes, je pense que ça fonctionnerait pas parce qu'ils attendraient d'avoir une réponse juste et puis il n'y a pas de réponse juste, il n'y a que des réponses individuelles et à des questions individuelles aussi et personnelles. Donc je pense que ce qu'il leur est demandé, c'est de se répondre à eux-mêmes, à une question qui se pose aussi eux-mêmes. La question, c'est comment passe-t-on C'est pas, on peut pas dire qu'on formule, mais c'est plutôt raconte-moi comment c'était dans ton pays d'accueil et comment c'est ici. Et ça permet déjà de créer un pont, une passerelle, sans dire les enfants, on va travailler sur votre parcours ou sur votre arrivée ici. Parce que ça serait pour eux, je pense, des termes abstraits, ce sont des termes politiques et sociaux que nous utilisons pour nous, entre travailleurs, mais ce ne sont pas du tout des termes qui parlent à des enfants de 12, 13, 15 ans.
Les thèmes qui reviennent beaucoup, il y en a.
C'est peut-être pas des thèmes, mais c'est surtout la recherche d'harmonie, la recherche de confort, le bonheur. C'est seulement ce qui se traduit au travers des images, c'est la quête du bonheur. Et ce qui est justement exposable, c'est cette preuve d'esthétique et d'harmonie, d'association d'idées qui se font comme ça par l'image. Et cette réflexion imagée, cette pensée qui est à l'intérieur d'eux, qui se traduit comme ça dans leurs œuvres.
La nature est présente, beaucoup.
Oui, parce que je pense que la nature est présente, parce que chez les enfants primo-arrivants, souvent ils viennent donc de pays, défavorisés, ou de pays où la ruralité est présente dans l'urbanisme, parce qu'ils ne sont pas dans un univers industrialisé comme le nôtre et riche qui permet du goudron et du macadam de partout. Donc je pense que c'est aussi ce qui leur manque quand ils arrivent dans une agglomération comme la ville de Marseille, avec peu de moyens pour se déplacer en ville, donc ils n'ont pas forcément le luxe et accès aux espaces verts.
Alors on voit que Chantal Virulo nous dit que ce qui se traduit en fait au travers des images et des œuvres de ses élèves, c'est la recherche de l'harmonie et la quête du bonheur. Je trouve que c'est de bonnes paroles pour conclure notre débat, mais vous voulez peut-être y réagir.
Oui, alors par rapport à Chantal, ce travail a été extraordinaire parce que les élèves sont passés d'un travail stéréotypé, classique, absolument... traditionnel à quelque chose de créatif, et on sent exactement ce qui est dit, quoi. C'est une quête du bonheur. On sent dans le travail des enfants une envie d'autre chose.
Claire ?
Alors oui, moi je voudrais simplement rappeler que bien sûr les causes de la migration, c'est bien souvent des conditions matérielles et l'espoir effectivement de vie, un environnement économique plus favorable, mais l'investissement dans la scolarité des enfants est bien souvent le moteur du départ et d'une scolarisation dans un pays développé. Donc un investissement sur l'école qui est très très important, et cette quête du bonheur, elle passe par l'école.
Merci. Vous voulez dire quelque chose, Ralib ?
Oui, moi pour conclure, je tiendrai quand même à rappeler le travail fourni par le RESF, et notamment au niveau du travail d'information qui est fait auprès des professeurs, des enseignants, mais pas uniquement auprès des enseignants, pour que tout le monde essaie de se renseigner un peu plus et que justement on puisse permettre à ces enfants de rester sur place et de goûter aussi au bonheur. Voilà.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Et puis je vous souhaite bonne continuation. Voilà, je voulais quand même vous rappeler que, justement, à propos des œuvres de ces élèves, que vous pouvez toujours voir l'exposition Métamorphose à Espace Accueil aux étrangers jusqu'au 16 novembre, au 22 rue Mathieu Stilati, dans le 3e arrondissement. Le kiosque juridique. Le kiosque juridique est une rubrique mensuelle au cours de laquelle on répondra à chaque fois aux questions des auditeurs. Et donc, en fait, on attend vos questions et sur le répondeur au 04 91 84 95 50. Nous allons écouter maintenant une question d'une auditrice en rapport avec le sujet de notre première émission sur les travailleurs saisonniers dans l'agriculture. Je vous dirai d'ailleurs que cette émission, vous pouvez toujours l'écouter sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Écoutons la question.
Oui, allô, bonjour, j'ai entendu votre émission et j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, est-ce que les saisonniers, ils vont avoir une carte de 3 ans. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour Hervé, vous êtes juriste à Espace Accueil aux étrangers et je vais donc vous laisser la parole pour répondre à cette question bien intéressante.
Alors la question que pose cette dame concerne tous les travailleurs saisonniers, pas uniquement ceux dont on a parlé lors de la dernière émission, ceux pour lesquels le CODETRA se bat pour l'obtention d'une carte de séjour définitive. C'est une carte de séjour de 3 ans, autorisant le travailleur saisonnier qui la possède à travailler 6 mois par an. C'est une façon de créer un statut un peu bancal parce que malgré tout, il aura pour conséquence de les laisser, ces travailleurs en dehors du territoire et sans aucun droit de s'installer en France. Mais c'est quand même un petit progrès. Alors, cette carte, les travailleurs saisonniers qui ne l'ont pas encore, il faut qu'ils aillent la chercher, notamment ceux qui risquent de pas retrouver leur employeur l'année prochaine, et donc qui risquent de perdre leur emploi. Au moins, avec cette carte de séjour, ils seront en possibilité de pouvoir retrouver un emploi plus facilement. Ça sera toujours mieux que rien. Et cette carte de séjour, je le rappelle pour les éventuels travailleurs saisonniers qui nous écouteraient ou leurs amis, n'a rien à voir avec celle qu'on essaye d'obtenir pour ceux qui, depuis de nombreuses années, ne sont pas en fait des travailleurs saisonniers, qui travaillent 8 mois par an et qui sont des travailleurs permanents et pour lesquels on essaye d'obtenir une carte d'un an salarié renouvelable tous les ans, leur garantissant un vrai droit d'installation en France.
Merci Hervé. Alors, puisque nous parlons des travailleurs saisonniers, j'en profite pour vous annoncer que le CODETRAS, donc le collectif de défense des travailleurs saisonniers en agriculture et espace accueil aux étrangers, organise le mardi prochain, donc 14 octobre à 18h, une rencontre débat avec Spitu Mendi, un syndicaliste dans les serres autour d'El Rido, je ne sais plus comment on prononce.
El Rido,
en Espagne. Donc, Spitu Mendi nous parlera des ouvriers migrants, de leurs conditions de vie et de travail, du climat de racisme et de tension qui y règne, et de la politique du gouvernement espagnol. Il y aura des échanges avec le CODETRAS afin de mettre en parallèle la situation avec les situations des travailleurs saisonniers des Bouches-du-Rhône. La chronique du jour de Nicolas Aretz, journaliste à CQFD.
Je me souviens d'une après-midi devant l'école des abeilles, quartier du Chapitre, à Marseille. École que certains dans le quartier appellent l'école des clandos. Ce jour-là, une patrouille de 4 policiers nationaux fait le pied de grue à l'angle de la rue des Abeilles et de la rue Flégier. C'est l'heure de la sortie des classes. Tumulte, vacarme des minots traversant hors des clous, à un carrefour assez dangereux. Mais la police n'est pas là pour les aider à traverser. Non, elle est là en mission de maintien de l'ordre. Une fliquette, toujours zélée les fliquettes, traverse la rue en diagonale, s'approche du portail à grandes enjambées, se penche, entre la tête la première dans la cour, et sans un mot aux institutrices, ni aux tatas, ni aux parents interloqués, court rejoindre ses collègues en jouant nerveusement avec sa matraque. Une mère s'approche alors de la fonctionnaire. « Pardon madame, vous cherchez quelqu'un ? Vous êtes là pourquoi ?» La fliquette fébrile. « On nous a dit qu'il y avait un problème de raquette ici, on est venu voir. » Renseignement pris auprès de la directrice, il n'y a jamais eu de problème de raquette ici. La patrouille informée bredouille quelques mots qui s'apparentent de très loin à de vagues excuses, puis s'éloigne. Ce jour-là, il n'était pas venu rafler des enfants de sans-papiers. La France, pays des droits de l'homme, se doit bien sûr d'être aussi le berceau de la protection de l'enfance. L'enfant, le petit enfant, le fragile enfant. La police est là pour le protéger des parents indignes qui le laissent frire en plein mois d'août dans une voiture garée en plein cagnard. L'enfant, que le rapport du parlementaire Benisti prévoyait d'épingler dès la maternelle dans les fichiers de la prédélinquance comme un menaçant papillon dans la vitrine du collectionneur. L'enfant sur lequel la publicité et les marchands de gadgets électroniques lorgnent avec une concupiscence quasi-pédophilique. L'enfant qui voit passer sous son nez le canon d'un fusil mitrailleur d'un plan vigipirate qui depuis quelques mois envahit jusqu'au bac à sable. L'enfant, matière première de la gestion des ressources humaines de demain. L'enfant, bombe à retardement d'une vie gourmande et incontrôlée, lâché dans les pattes d'une société maladivement contrôlée. Alors me direz-vous, Et l'enfant étranger dans tout ça? Que peut bien espérer l'enfant étranger? Qu'on l'aide à traverser entre les clous? Qu'on caresse ses cheveux bouclés? Qu'on le laisse grandir sous le regard bienveillant d'un voisinage chaleureux où les gosses paraissent appartenir à tout le monde et à personne à la fois, joyeusement libres d'explorer les ruelles, les placettes et les terrains vagues? Ne comptez pas sur la police française pour encourager ça. Un petit message, oui, donc de la part de l'équipe de CQFD, donc le mensuel de critique et d'expérimentation sociale qui sort tous les 15 du mois, que beaucoup connaissent déjà. Nous avons lancé une campagne de souscription et nous cherchons 2000 abonnés de plus pour pouvoir tenir le coup. C'est un appel à l'aide. Le journal va bien, hein, il n'est pas prêt de disparaître, mais il a besoin de vous. Voilà.
Bah, c'est bien de le dire et nous espérons encore une longue vie à CQFD. Merci.
Merci à vous.
Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais quand même vous rappeler quelques informations utiles. Alors, sur le sujet du jour, et si ce sujet vous a intéressé, vous pouvez trouver un dossier complet et des liens utiles sur le site d'Espace, www.espace.asso.fr, dans la rubrique « Documents et références ». Et en lien aussi sur Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Je vous conseille aussi la lecture de deux ouvrages. La revue Écart d'identité, numéro 110, dont le titre est « Enfants nouvellement arrivés en France, le rendez-vous avec l'école ». Et le livre de Marie-Rose Moreau, dont le titre est « Psychothérapie transculturelle de l'enfant et de l'adolescent », aux éditions Duno. N'oubliez pas aussi que vous pouvez visiter l'expo Métamorphose jusqu'au 16 novembre à tous les jours sauf le week-end à Espace Accueil aux étrangers au 22 rue Mathieu Stilati dans le 3e arrondissement de Marseille. Merci encore à Amel Madouni, Raliba Bounzoul et Claire Pouchol. Merci à Chantal Virolo, à Vincent Delpech, à Hervé Guyet. Merci à Tony à la technique. Nous attendons vos impressions, vos critiques et vos questions sur le répondeur de l'émission 04 91 84 95 50. Et surtout, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous le 9 novembre à 11h sur les ondes de Radio Grenouille et Radio Zinzine. Cette émission vous a été présentée par Asma et Sid.